Raconte-moi, un balado sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. Leonardo da Vinci est né en 1452 à Vinci en Toscane. Il est un artiste, un inventeur et un scientifique du 15e siècle. Il a évidemment peint la Joconde et la Seine. Il dessine aussi l'homme de Vitruve. Il développe des idées très avancées pour son époque, comme la voiture et le sous-marin. En tant que scientifique, il laisse sa marque dans le domaine de l'anatomie, du génie civil et de l'optique. Mais l'obsession de Da Vinci, c'était de voler. Et il a essayé toutes sortes de façons, allant même jusqu'à faire des recherches sur les ailes de chauve-souris, pour les répliquer et essayer de faire une machine à voler plus légère. Alors que Da Vinci s'inspire de la chauve-souris pour faire ses prototypes, Bob Kane, lui, se base sur les recherches de Da Vinci pour dessiner Batman. Batman fait sa première apparition dans le numéro 27 de Detective Comics en 1939. C'est suite au succès de Superman chez Action Comics que la commande de créer de nouveaux super-héros arrive, et c'est à ce moment que Bob Kane présente The Batman. Bill Finger, co-créateur de Batman, décrit les premiers dessins comme un personnage qui ressemble étrangement à Superman, avec un costume de spandex rougeâtre, des bottes, sans gants, un masque à la Zorro et qui se balance sur une corde avec deux ailes dans le dos. C'est cet accessoire qui a été inspiré de Da Vinci. C'est Bill Finger qui suggérera les modifications au costume pour qu'il ressemble à celui qu'on connaît aujourd'hui. La cagoule remplace le masque, la cape remplace les ailes et les accents de rouge sont retirés. C'est aussi Finger qui baptise l'alter ego de Batman, le playboy excentrique Bruce Wayne. Ces changements sont inspirés de la bande dessinée The Phantom qui était à l'époque publiée dans les journaux. Avant le succès monstre de Batman, Bob Kane signe un accord qui transfère les droits de propriété du personnage à DC en échange d'une mention sur tous les comics stipulant « Batman créé par Bob Kane ». Bill Finger n'a par contre pas la même chance, car son entente ne lui donne droit qu'à des crédits d'auteur. Lors de sa mort en 1974, Finger n'avait toujours pas été crédité du titre de co-créateur de Batman. Et c'est seulement en 2015 qu'il reçoit ce crédit avec la mention « Batman créé par Bob Kane avec Bill Finger ». Même les productions cinématographiques depuis « Batman vs. Superman, Dawn of Justice » ainsi que la série télé « Gotham » soulignent l'apport de Finger. C'est en 1940 que Batman obtient son premier titre en solo. Il continue d'apparaître aussi dans la série des Detective Comics. Il est aussi apparu aux côtés de Superman dans la série World Finest Comics à l'automne de 1940. Dans les premières années, Batman était un détective. Et c'est en 1940 que Bill Finger suggère l'introduction de Robin, qui est l'équivalent de Watson pour Batman. Bob Kane n'est pas tout à fait chaud à l'idée d'avoir un sidekick pour Batman au départ. Mais, à sa grande surprise, les ventes ont presque doublé avec la venue de Robin en avril 1940. En 1954, le psychologue Frederick Wertham écrit un livre intitulé « Seduction of the Innocent », dans lequel il plaide une thèse selon laquelle les jeunes lecteurs pourraient imiter les actions posées dans les comics et que leur moralité pourrait en être corrompue. C'est d'ailleurs dans cet essai que la folle rumeur d'une relation amoureuse entre Batman et Robin est énoncée pour la première fois. Une contestation populaire s'organise et donne naissance à la Comic Code Authority, une sorte d'agence de censure qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. Avec l'avènement du Comic Code Authority, les aventures des super-héros doivent être modifiées et allégées. En 1964, les ventes des comics de Batman continuent dans leur chute et DC Comics planifie même la mort pure et simple du personnage et de son univers. À la dernière minute, Julius Schwartz prend les rênes de la série et introduit plusieurs changements afin de la moderniser. Il commence par ramener le personnage à son essence de détective. La Batmobile est entièrement redessinée, tout comme le costume de Batman, qui arbore maintenant les accents de jaune sur son logo et sur sa ceinture. Alfred Pennyworth, le butler de Bruce Wayne, est tué, mais sa mort est renversée rapidement, alors que Tante Harriet s'installe dans le manoir Wayne. Tous ces éléments influencent la série télé lancée en 1966 qui, à son tour, influence les comics, alors que les histoires ont ce côté kitsch de la série. L'aventure télévisuelle durera 2 saisons seulement et s'achèvera en 1968. On se fait plaisir et on écoute encore un petit bout de la chanson de la série télé. Les années 70 sont en dents de scie pour ce qui est des ventes et de l'inventivité de la série. Il y a eu plusieurs changements d'auteurs et de dessinateurs durant cette décennie et le début des années 80. Peu de choses ressortent de cette période, mis à part le commencement du Batman sombre et 6 numéros de la série Detective Comics qui influenceront le film de 1989 et Batman Animated Series au début des années 90. I'm Batman. Alors que le nombre de copies en circulation ne cesse de descendre dans les années 80, il atteint le fond du baril en 1985. DC Comics cherche un moyen de raviver l'intérêt pour le personnage et confie cette lourde tâche à Frank Miller, jusqu'alors connu pour avoir écrit un arc narratif de Daredevil chez Marvel. L'arc narratif que Miller prend pour Batman en 1986 est celui où un Batman âgé de 55 ans sort de sa retraite pour combattre le crime à nouveau à Gotham City. C'est un retour aux racines les plus sombres du personnage. Cette série devient The Dark Knight Returns. Elle remet le personnage à l'avant-plan et le rend populaire et pertinent à nouveau. Suite à l'immense succès de The Dark Knight Returns, Miller est de nouveau sollicité et écrit Batman Year One en 1987. Avec Year One, il crée une sorte de prequel au Dark Knight Returns. On le suit donc lors de sa première année en tant que justicier masqué, alors qu'il a 25 ans et retourne à Gotham après un entraînement exhaustif de 12 ans en arts martiaux, en chasse à l'homme et en sciences. Si cette prémisse vous sonne une cloche, c'est parce que c'est sur cette histoire qu'est basé le film Batman Begins. Ces deux histoires de Miller sont fortement influencées par la situation de la ville de New York, qui à cette époque est presque en faillite et aux prises avec une forte criminalité. Il insuffle aussi à ces épisodes de la satire et de la critique sociale. Depuis, plusieurs itérations du comic ont vu le jour, comme celle où Bruce Wayne est blessé par Bane et est remplacé dans le Batsuit, ou une autre dans laquelle Batman et Catwoman font équipe pour combattre le crime, pour ne nommer que celle-là. Depuis la fin des années 80, DC Comics focus beaucoup sur les représentations du personnage dans d'autres médias comme le cinéma, la télévision ou les jeux vidéo. À la télévision, c'est surtout sous forme de dessins animés qu'il connaît du succès, avec entre autres Batman The Brave and the Bold en 2008, mais surtout Batman The Animated Series qui obtient un succès monstre et quelques Emmy Awards. Et qui est aussi connu pour la participation d'un certain Mark Hamill dans le rôle du Joker, rôle qu'il reprendra à plusieurs reprises par la suite, tant à la télévision que dans la série de jeux vidéo Arkham. La série Gotham, en prise de vue réelle, a aussi été un énorme succès sur la chaîne Fox avec 6 saisons dans laquelle on suit l'ascension du commissaire Gordon. Bruce Wayne y apparaît alors qu'il est âgé d'une douzaine d'années. Et attention, spoiler alert, Batman fait une apparition dans le dernier épisode de la série. Au cinéma, Batman apparaît dans 8 films qui lui sont consacrés, incluant celui de 1966. Évidemment, les deux films de Tim Burton, Batman et Batman Returns, connaissent un énorme succès au box-office. D'ailleurs, en 1989, Batman était le 5e film le plus lucratif de l'histoire du cinéma. Joel Schumacher ternit un peu l'image des films avec Batman Forever et Batman et Robin, en faisant des films à la limite du kitsch et sans trop de second degré, au point où Warner Brothers tire la plug sur un 5e film qui devait s'appeler Batman Unchained. En 2005, Christopher Nolan reboot la franchise avec Batman Begins, qui est suivi de The Dark Knight et The Dark Knight Rises, qui forment à eux la trilogie The Dark Knight. Ces films obtiennent un immense succès et remettent Batman sur la map. D'ailleurs, The Dark Knight a été le 2e film avec le plus de recettes derrière le Titanic à son époque et a valu un Oscar posthume à Heath Ledger pour sa performance en tant que Joker. Depuis, aucun autre film consacré à Batman n'a vu le jour, mais le personnage est apparu dans quelques films comme Justice League, Lego Movie, The Lego Batman Movie, Suicide Squad et Batman vs. Superman Dawn of Justice. Batman est aussi en vedette dans plusieurs jeux vidéo dont la populaire série Arkham, qui contient 4 jeux lancés en 2009 et 2015. En plus d'être très populaire, ces jeux ont obtenu des critiques dithyrambiques à leur sortie. Dire qu'un simple croquis de la Renaissance nous a mené à la chauve-souris la plus populaire et la plus lucrative de l'histoire. Un héros connu de tous et qui sera encore présent pour plusieurs générations. Qui l'eût cru? Merci d'avoir été là. J'espère que l'épisode vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser vos commentaires sur iTunes, Google Play et Spotify afin d'en apprendre plus sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. À la technique, la recherche, la narration, la production et la réalisation, c'est André Bustros qui vous dit à très bientôt.